La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Europe 1, vous êtes au bon endroit. On vous montre que même en ce moment, des femmes et des hommes se réinventent et bâtissent le monde de l'après-crise. Pendant cette période de confinement, des entrepreneurs se retroussent les manches et on en parle pendant une heure. Avec évidemment à mes côtés Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à tous. Les pharmacies sont une fois de plus en première ligne. Tests antigéniques enfin disponibles. Vaccin contre la grippe plus disponible. Rupture de médicaments. Comment s'organisent-elles et comment vivent-elles cette deuxième vague de l'épidémie? Jusqu'à 14h, on sera en direct avec le directeur général de Gifar. C'est un des plus grands rassemblements de pharmacies en France.
À la une, les gestes barrières, notre nouvelle façon de vivre. Gros plan sur un robot nettoyeur qui tue le virus sur toutes les surfaces. Très efficace pour des lieux qui accueillent du public notamment. Les détails d'ici quelques minutes.
C'est un des produits très recherchés en pharmacie, l'homéopathie, un secteur en difficulté avec les vagues de déremboursement. Et pourtant, derrière ce secteur se cache un géant familial français, le groupe Boiron. Ce sera notre saga du jour à 13h30.
Bien sûr, les trophées Europe 1 La France bouge. Chaque jour, une entrepreneur. Un entrepreneur vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, l'équipe de La France Bouge a retenu Virtuosi, qui éveille nos enfants le plus tôt possible à la musique. Le pitch va-t-il nous convaincre? Réponse 13h45.
Et pendant tout ce confinement, La France Bouge vous donne un coup de main aujourd'hui. Quelle stratégie pour faire en sorte que même les plus réticents se mettent à acheter sur Internet? Nathalie Carré de la CCI France nous racontera tous ses bons plans à la fin de l'émission. Ce sera aux alentours de 13h50.
Bienvenue dans La France Bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France Bouge sur Europe 1.
Confinement, épisode 2. Et on espère que ce sera le dernier. Plus que jamais, les pharmaciens sont donc au cœur de la crise. Ils sont sur le front et ils s'adaptent à cette période inédite.
Bonjour Pierre-Xavier Franck.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Gifar, du groupe Gifar. Vous êtes aussi pharmacien. Être pharmacien aujourd'hui, c'est être en quelque sorte le phare de toute personne qui a besoin de conseils, d'éclairage face à cette pandémie que nous traversons. Gifar, ça existe depuis 1968, 1350 pharmacies. Les tests antigéniques sont arrivés la semaine dernière dans les pharmacies. Depuis, entre les demandes de dépistage du coronavirus, les vaccinations contre la grippe, on imagine que c'est le rush dans les officines. Est-ce que ces demandes de tests antigéniques sont importantes aujourd'hui ?
Bonjour. Alors, je dirais que le rôle du pharmacien s'est considérablement renforcé ces derniers temps. Et pour répondre précisément à votre question, oui, il y a une demande de la patientèle française pour les tests antigéniques en pharmacie. On va dire que le réseau monte aujourd'hui en puissance justement dans cette offre de services de tests antigéniques. On estime à peu près qu'il y a 5% des pharmacies du territoire en France aujourd'hui qui les proposent. Et ce chiffre va augmenter de façon assez significative dans les prochaines
5%,
semaines.
5%, ça veut dire quasiment personne. Vous pensez que ça va monter jusqu'à combien ?
On devrait monter jusqu'à 50-60% théoriquement.
Alors aujourd'hui, donc, ça va aller de plus en plus fort, la demande va être de plus en plus importante. Combien de personnes par jour vous avez là depuis la mise en place de ces tests antigéniques ?
Écoutez, on a environ 150 personnes en moyenne qui rentrent chaque jour dans une pharmacie. Et on connaît la prévalence du coronavirus dans la population. On va avoir une trentaine de patients qui vont rentrer dans une pharmacie aujourd'hui pour parler du coronavirus à leur pharmacien, au bas mot. Et ces personnes, bien évidemment, ont envie qu'on leur parle également des tests de dépistage antigéniques.
Et donc de les faire.
Alors moi, je suis peut-être un idiot, mais 5% aujourd'hui des pharmacies, pourquoi ? Parce que c'est compliqué pour elles de s'organiser ou une fois de plus, il n'y a pas les tests ?
C'est une montée en puissance. Alors, d'après les dernières informations...
Montée en puissance, on part de très bas, là, qu'on est 5%. Oui. Il va falloir un petit peu pousser, alors.
Tout à fait. Mais il y a toujours une petite différence entre les annonces et la mise en application pratique sur le terrain
mais
de
alors,
ce qui est annoncé.
Mais alors, ils sont où ces tests ? Ces 5%, c'est uniquement les grandes agglomérations ?
Non, en fait, grosso modo, vous allez avoir 35 tests aujourd'hui qui sont validés par les laboratoires, qui sont recensés sur le site du ministère. Et ces tests, concrètement, parviennent progressivement dans les pharmacies selon un flux de vente directe entre les laboratoires qui les commercialisent et les pharmaciens. Et parallèlement, on a également un flux qui transite par le biais des grossistes répartiteurs. Giffard Group fait également partie des grossistes répartiteurs. Grosso modo, il n'y a pas véritablement de problème pour les fabricants à alimenter les pharmaciens en direct.
Alors,
par contre, le ressenti des grossistes répartiteurs est plus compliqué parce qu'on est davantage livré au compte-goutte aujourd'hui.
Mais comment ça se fait ?
C'est la montée en puissance, tout simplement. On a une demande qui est très importante autour de
ces
tests.
Donc on répète l'épisode des masques, là ?
Pas exactement, mais pour l'instant, ça en prend un petit peu la tournure. On espère qu'on va monter en puissance là-dessus. Les textes réglementaires sont sortis le 16 octobre et le 26 octobre. Ce sont des arrêtés.
Ah bon, on est le 11 novembre quand même aujourd'hui.
On est le 11 novembre, tout à fait. Mais lorsque on dit OK, on y va, il ne s'agit pas simplement de dire OK, on y va et d'appuyer sur un bouton pour que les 21 600 pharmacies de France puissent du jour au lendemain décliner ces modalités opérationnelles qui sont d'ailleurs assez compliquées. En pratique.
Oui, c'est ça, parce que est-ce que c'est pas aussi ça le problème ? On l'entend, il y a un problème de montée en puissance. Une fois de plus, on fait des effets d'annonce, on n'a pas tout à fait les stocks et on met du temps à les répartir sur tout le territoire. Mais derrière, le boulot du pharmacien est compliqué. Il faut du personnel habilité pour faire les tests, hein, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais ces tests antigéniques, c'est une fois de plus au sein du nez hein, que l'on fait le test. Et puis, il faut un espace pour le faire. Je vois juste à côté d'Europe 1, là, en plein cœur de Paris, la pharmacie la plus proche, elle a mis un petit chapiteau à côté, sur le trottoir, pour faire les tests.
Tout à fait. Les textes, alors, on fait preuve de souplesse, concrètement, dans son déploiement, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'initialement...
Bah heureusement, parce que déjà que ça va pas vite.
Oui, alors, il faut savoir que c'est quand même assez compliqué. Concrètement, au début, le pharmacien d'officine devait réaliser ses tests dans sa pharmacie, mais on ne peut pas pousser les murs. Mmh. Concrètement, il faut pouvoir créer des files d'attente, il faut pouvoir espacer les patients.
Ou sur rendez-vous aussi. Moi, j'ai vu une pharmacie hier qui me disait, nous, on prend que des rendez-vous.
Le rendez-vous est un dénominateur commun, on va dire, à une bonne organisation hein, de la pharmacie, tout simplement. Parce que si vous avez beaucoup de patients qui arrivent, qui souhaitent se faire tester, vous risquez de mélanger des gens qui n'ont pas le coronavirus à ceux qui ont le coronavirus, exactement, de créer un micro-cluster au sein de la pharmacie. Bien sûr, ce n'est pas l'objectif, mais ce que vous avez décrit, effectivement, on a des pharmacies qui ont installé des barnums à l'extérieur, attenant à la pharmacie, bien identifiés, et ça, le texte l'a rendu possible. Hein. Il faut une autorisation préfectorale, et si on empiète sur l'espace public, en plus, obtenir une autorisation de la mairie. Donc c'est quand même, voilà, ça prend quand même un petit peu de temps.
C'est encore beaucoup de temps, beaucoup de papiers à remplir. Il a fallu aussi former du personnel pour faire ces tests.
Bien
il faut
évidemment.
Les former, même en ce moment.
Oui, il y a de la formation théorique, d'une part, et ensuite, il y a de la formation au geste de prélèvement, parce que vous l'avez justement rappelé, c'est un prélèvement nasopharyngé.
Donc c'est un geste invasif, comme on dit. Donc, il faut une technique particulière, il faut un profil particulier pour pouvoir effectuer ces tests.
Alors, pas forcément de profil particulier. Je dirais que n'importe quelle personne qui a été formée au préalable par une personne qui maîtrise le geste peut l'assurer. C'est pas forcément quelque chose de très compliqué, mais il faut quand même introduire un écouvillon, hein, une sorte de gros coton-tige, une dizaine de centimètres dans les fosses nasales et venir taper sur le nasopharynx derrière pour pouvoir exprimer les sécrétions.
Au bout du bout, quand on aura enfin tous les tests, vous pensez quoi ? Une pharmacie sur deux, grosso modo en France, devrait être capable de le faire ?
À peu près, oui. Ce sont les chiffres qui circulent et les estimations des syndicats, notamment.
Au niveau du... On en a parlé, là, depuis 24 heures, énormément du vaccin hein, dont Pfizer est en phase 3 de tests. Vous espérez l'avoir, ce vaccin contre le Covid ? Vous allez me dire oui, évidemment, mais comment vous apprenez cette nouvelle hier et comment vous l'abordez avec vos salariés, par exemple ?
Alors, on a pris les annonces de Pfizer et de BioNTech avec beaucoup d'optimisme, hein, forcément. C'est un signal très positif qui est envoyé au monde entier parce que ce devrait être un bien public mondial, ce vaccin contre le coronavirus. Donc, c'est une très bonne chose.
Quand est-ce que vous espérez l'avoir ?
Là est la question. Je n'ai malheureusement pas de boule de cristal. Concrètement, on sait que pour sortir un vaccin, en moyenne, il faut 10 ans. Aujourd'hui, vous allez avoir énormément de structures hein, qui travaillent sur des candidats vaccins. On a 47 candidats vaccins dans le pipeline aujourd'hui, dans la phase de recherche, on va dire. Il y en a 10 très clairement qui tirent leur épingle du jeu. Si on arrive à l'obtenir en 18 mois, ça serait déjà une prouesse absolument phénoménale. Ça, il faut bien
mois.
Comprendre. Exactement.
Donc, on espère autour du fin du printemps, début de l'été, l'année prochaine, peut-être que ce vaccin pourrait être disponible. Concernant le vaccin de Pfizer, il y a un gros problème, puisqu'il faut le garder, a priori, à moins 70, moins 80 degrés. J'imagine que vous n'avez pas ça dans vos pharmacies. Elles sont toutes équipées de frigos qui permettraient d'avoir ce vaccin ?
Alors, pas du tout. C'est l'une des, c'est l'une des autres difficultés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vaccins de différents types qui sont justement en phase de recherche. Et le vaccin de Pfizer, c'est un vaccin qui repose sur un patrimoine génétique qui a besoin d'être stocké à moins 80 degrés.
Parce qu'ils sont stockés où, les vaccins en ce moment ? Les autres vaccins, c'est dans des frigos toujours ?
Les vaccins classiques, c'est dans du frigo, exactement, entre 2 et 8 degrés. Tout à fait, c'est la chaîne du froid conventionnelle que les acteurs de la distribution savent très bien gérer, les pharmaciens
savent très bien gérer ça. Mais là, on est d'accord, il faudrait trouver un système pour le conserver au sein de vos pharmacies qui n'existent pas aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, la façon la plus pragmatique d'envisager la question, c'est sans doute de passer par des centres de vaccination qui vont pouvoir gérer cette contrainte du moins 80 degrés, parce que les pharmaciens aujourd'hui ne sont pas en capacité de pouvoir le faire. Mmh. Pfizer a dit pouvoir mettre à disposition des caissons qui garantiraient le moins 80 degrés pendant 2 semaines. On attend de voir la réalité de cette annonce.
Pierre-Xavier Franck, vous restez avec nous, vous êtes le directeur général de Giffard.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, la France bouge. Nous parlons aujourd'hui des gestes barrières, des tests, des masques, des gels. Nous sommes avec notre grand témoin du jour, Pierre-Xavier Franck, qui dirige le groupe Giffard. Vous connaissez peut-être pas, hein, c'est pourtant le plus gros regroupement de pharmacies en France avec 1350 pharmacies.
Et nous sommes avec vous, Guillaume Arnoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Fibots International. Votre entreprise existe depuis 2011, une trentaine de salariés. Vous êtes présent dans plus de 20 pays. Et alors, vous, à la base, dans votre métier, vous proposez des robots. Mais depuis l'arrivée du coronavirus, vous avez mis au point un robot totalement unique au monde, un robot nettoyeur qui tue le virus du coronavirus. Expliquez-nous.
Oui, en effet, notre métier principal, c'est la réalisation et la fabrication de robots de nettoyage de sol, en fait, au niveau industriel, site public, etc. Et on a depuis quelques mois développé des nouveaux robots en utilisant les mêmes véhicules que nos robots habituels de nettoyage de sol et en y ajoutant des centrales de diffusion par voie aérienne de brouillard sec qui permettent de désinfecter tout ce qui est bactéries, virus, etc. On a acquis cette technologie en partenariat avec une société Octopus, qui est une société française qui avait une dizaine d'années d'expérience dans la désinfection par voie aérienne. Donc le principe, c'est d'avoir un robot qui est complètement autonome et qui va circuler sur des sites industriels, des sites publics, des supermarchés, et envoyer, alors on est sur un process qui est hors public, mais envoyer un brouillard très sec, une fine particule, qui vont se focaliser sur les virus, les bactéries, et désinfecter en fait toutes les surfaces que le robot va rencontrer. Voilà un petit peu le principe.
Est-ce que grâce à ce robot, on est sûr que le coronavirus disparaît totalement ? C'est-à-dire, vous pouvez le certifier à 100%, il n'y a plus de risque une fois que le robot est passé ?
Oui, alors dans la désinfection, on n'est jamais à 100%. Hein. On est dans une réduction, on va dire, de la charge virale. On est de toute façon, on va dire, beaucoup plus efficace que les méthodes actuelles qui sont la lingette, la diffusion de certains biocides. Sur notre technologie d'un brouillard qui va vraiment se diffuser sur l'ensemble des surfaces et d'une pièce, on raisonne, nous, en log, c'est-à-dire sur 10 millions de capacité de réduction de virus et de bactéries. Donc on est aujourd'hui la solution la plus efficace sur le marché.
C'est complètement extraordinaire si vous arrivez... Il est en phase de test ou ça y est, il est sur le marché ?
Il est sur le marché, on est en train de livrer les premières machines. Donc on a deux types de robots, un petit robot qui va aller gérer des surfaces, on va dire jusqu'à 10 000 m².
Comme un supermarché,
Voilà, le principe c'est que le robot est programmé, donc il est complètement autonome. Mmh. Il ne faut pas qu'il y ait de présence humaine parce qu'on envoie en fait un brouillard de peroxyde, qui est le produit le plus utilisé actuellement dans la désinfection. Donc hors présence humaine, le robot est programmé pour traverser les allées, aller soit dans des bureaux, soit dans des centres commerciaux.
Mais c'est révolutionnaire, ça va changer la vie de plein d'entreprises, d'endroits qui accueillent du public, je pense notamment au métro, au train.
Exactement. On est en train de travailler avec la SNCF à développer des solutions. On est en phase d'études aujourd'hui pour de la désinfection de train et on est en plein dedans. Ça fait 3 mois qu'on travaille sur le sujet. Donc avec 2 robots, un petit robot et un gros robot, on peut gérer des surfaces. Ce qui est important, c'est la capacité d'embarquement du peroxyde.
Avec Elisabeth, on a vu des vidéos, ça paraît assez impressionnant. Il va jusque dans les tiroirs, derrière les produits. C'est ça qui est un peu impressionnant. Vous nous avez fait rêver quand on a vu ça.
On s'est dit, tiens, il va venir à Europe.
C'est un drôle de rêve, du cauchemar au rêve. Non, en fait,
le principe, range aussi.
On peut gérer des options. On a des capacités de développement intéressantes. Sur le fond, c'est que le brouillard, on travaille vraiment sur des microparticules. Donc, il y a une dissipation importante. Et en effet, on a des tests où on pose des bandelettes de tests et on a une désinfection complète, y compris dans des tiroirs, y compris sur des sièges de train, y compris entre des strapontins. Enfin, le brouillard sec. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de d'essuyer par la suite. Il n'y a pas de dépôt. Donc, on ne vient pas endommager les surfaces, les tissus. Donc, on est vraiment sur un process.
Et ça coûte combien? Parce que c'est aussi le frein pour que tout le monde puisse s'en équiper. Là, on parlait par exemple d'un supermarché. Enfin bon, un petit patron de supermarché, si ça coûte cher, il n'aura peut-être pas les moyens de s'en doter.
Oui, alors il y a deux points sur ce. Actuellement, ce qui est fait, c'est en gros les lingettes et les opérateurs. Donc il y a deux ou trois personnes qui sont là, qui vont essayer d'essuyer tout ce qui est visible. La désinfection n'est pas très efficace. Nous, notre robot, il est autonome, c'est-à-dire qu'il a un programme, il va faire son travail tout seul, il va faire un rapport, il va sortir une carte géographique de la zone qu'il aura désinfectée ou nettoyée. Hein, ça marche dans les deux process. Hors présence humaine, donc à partir du moment où vous enlevez un ou deux opérateurs sur une opération de désinfection, déjà vous limitez le risque pour l'opérateur en lui-même et vous réduisez énormément le coût de l'opération.
Mais du coup, aujourd'hui, ça coûte combien quand même?
Allez, le prix, là, ça y est.
Allez, sur le prix, on est entre 950 euros et 1500 euros selon la dimension du robot par mois de fonctionnement. Donc
ouais.
c'est absolument rien.
Ouais, c'est une forme de location, forme de location longue durée, parce que je crois que le prix du robot à l'achat, il est autour de 75 000 euros, c'est ça hein?
On est entre 45 000 euros et 85 000 euros à peu près, hein, selon la dimension du robot, mais pour traiter des surfaces qui sont immenses.
Pierre-Xavier Franck, vous êtes le directeur général de Giffard. Vous les nettoyez comment, les pharmacies?
Ah, on va dire qu'on n'utilise pas ce type de,
mais c'est dommage.
De révolution hein, pour l'instant. On travaille toujours avec les fameuses sprays virucides hein, à la norme N14-476 qui doit être marquée sur les flacons. Et on frotte et c'est de l'huile de coude. Voilà, on désinfecte à l'ancienne.
Bah, le robot vous facilitera la vie, j'en suis sûre.
Visiblement, oui, clairement.
Merci en tout cas Guillaume Arnoux, le PDG de Fibots International.
La Caisse d'épargne vous présente La France bouge. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et on est toujours avec Pierre-Xavier Franck, le directeur général de Giffard, l'un des plus gros rassemblements de pharmacies en France, à 1350 pharmacies du côté du groupe Giffard. On parlait tout à l'heure du Covid, maintenant on va parler, pardonnez-moi l'expression, mais de la vraie grippe, celle que l'on connaît chaque année. Là aussi, c'est quand même complètement fou. Quand on va aujourd'hui en pharmacie, je suis sûr que pas mal de nos auditeurs qui sont là en train de nous écouter ont vécu cette expérience, il n'y en a plus de vaccins. Comment c'est possible? Est-ce que vous confirmez que déjà chez vous, il n'y a quasiment plus un seul vaccin?
On a aujourd'hui 70% des pharmacies sur le territoire qui sont à sec.
Mais comment c'est possible?
Tout simplement parce que les livraisons sont segmentées hein, par les deux laboratoires qui mettent à disposition ces vaccins. On part sur une quantité totale théorique de vaccins mis à disposition des officines cette année et des autres professionnels de santé de l'ordre de 13 millions. L'année dernière, on était sur une quantité de 11 millions. Voilà. Et à date, on a 8,5 millions de vaccins qui ont été délivrés par les pharmacies.
Mais ont-ils été, j'ai envie de dire, bien délivrés? Parce qu'on a l'impression qu'au début, il y a eu une campagne de communication qui disait qu'il faut à tout prix se faire vacciner contre la grippe de façon massive, sans critères particuliers. Et après, il y a eu un petit rétropédalage. C'est l'explication, il y en a d'autres. Quel est le problème? Pourquoi aujourd'hui, cette année, plus que jamais, on a besoin de vaccins contre la grippe? Pourquoi il n'y en a plus?
Les pouvoirs publics ont mené une campagne très active de communication pour inviter les Français à se faire vacciner parce que le taux de couverture vaccinale de la grippe est en moyenne de 50% les autres années. L'objectif des pouvoirs publics était d'arriver au moins à 75%. Assez tôt, déjà à la fin du premier semestre, la Haute Autorité de Santé avait dit « on va essayer de prioriser les patients cibles ». C'est-à-dire les patients fragiles qui doivent recevoir ce vaccin. Les personnes de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les patients qui sont en affection de longue durée. Voilà. Et donc, ça a commencé concrètement, ça a commencé comme ça, mais il y a eu un quiproquo au début de la grippe où beaucoup de personnes, beaucoup de Français qui n'étaient pas forcément dans la population cible, se sont présentés en pharmacie pour pouvoir venir chercher des vaccins.
Et donc, ils se sont fait vacciner.
Et donc, certains se sont fait vacciner, bien sûr.
Alors, attendez, moi, il y a quand même quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Vous nous avez dit environ 13 millions de doses produites, environ 10 millions, si on arrondit, peut-être vendues. Ils sont où, les 2-3 millions de doses qui auraient été produites et qui n'ont pas été vendues ?
Malheureusement, je n'ai pas la réponse à votre question pour l'instant. On nous annonce, depuis le début, 13 millions de doses. Et aujourd'hui, on parle davantage de 11 millions. Très franchement, je ne sais pas pour l'instant où sont passées les 2 millions de doses.
Je vais peut-être poser une question complètement idiote, mais je l'assume. On ne peut pas tout simplement produire plus quand on se rend compte qu'il en manque. On ne peut pas reproduire des vaccins contre la grippe ? C'est si compliqué que ça à faire ?
Ça ne se fait pas en fait comme ça du jour au lendemain parce que les vaccins sont utilisés au niveau des hémisphères, hémisphère nord, hémisphère sud. Et donc les campagnes de production s'établissent du mois de mars, grosso modo, au mois de juillet pour l'hémisphère nord. Et tous les pays vont passer des commandes. Donc tout ça est complètement structuré depuis le début. Il n'y a pas de possibilité de parer à l'immédiat, si vous voulez. Il faut anticiper les commandes.
Donc il faut les anticiper. Là, nous sommes le 11 novembre, la rupture de stock est attendue pour début décembre. Il n'y aura plus rien.
Il n'y aura plus de vaccins, en tout cas commerciaux.
Donc, justement, vous parlez de vaccins commerciaux, ce qui signifie qu'après, il faudra les puiser dans le fameux stock d'État ?
Oui, alors ça, c'est un secret pour personne. Hein. Aujourd'hui, l'État français cherche à constituer un stock de protection.
La rumeur dit qu'il y aurait 4 à 5 millions de doses à l'intérieur de stock, mais a priori, personne n'est capable de donner le chiffre.
Oui, alors je ne vais pas commenter...
mais ça vous paraît crédible, 4 à 5 millions
C'est un petit peu surévalué, on va dire, mais grosso modo, oui, ça se chiffre en millions de doses qui constitueraient un stock d'État, un petit peu comme le stock de masse qui avait été constitué à l'époque. C'est aussi une décision historique.
On espère que ça va être un peu plus efficace que le stock de masse, parce que sinon, on ne va pas aller loin avec ces doses. Mais là, de façon concrète, un stock d'État, comme le rappelait Elisabeth, ce n'est pas tous les ans qu'on en crée un aussi important pour la grippe. C'est parce qu'il y a eu quand même une espèce d'anticipation cette année en raison de la crise. Mais comment vous pouvez puiser dedans ? Parce que c'est aussi bien pour vous les pharmaciens, c'est pour les EHPAD où on sait que c'est très compliqué. Pour les hôpitaux, on fait comment ? On appelle le ministère de la Santé. Bonjour Monsieur Véran, je voudrais tant de doses.
Ça ne fonctionne pas véritablement comme ça. En fait, si vous voulez, on travaille en tant que grossiste répartiteur avec les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics, c'est qui ? C'est Santé publique France, c'est la Direction générale de la Santé. Ce sont les agences régionales de santé également. Et on travaille avec ces pouvoirs publics pour définir exactement le nombre de doses à distribuer dans les pharmacies qui constituent ensuite les points relais vers les autres structures. Grosso modo, on a toujours fonctionné comme ça depuis le début de cette crise et assez vraisemblablement, il devrait continuer d'en être ainsi pour la suite.
Alors ce qui signifie, quand on vous écoute, c'est que la France bouge aussi dans son rapport au vaccin. On a l'impression qu'il y a un engouement des Français pour se faire vacciner.
Tout à fait.
Français très frileux, pourtant, par rapport au vaccin.
Oui, vous avez raison. La France fait partie des pays les plus réfractaires au monde au vaccin. On a 20% des Français, à peu près, qui doutent de l'efficacité des vaccins.
Donc là,
et 40%
bouge.
Qui doutent de la sécurité des vaccins. Mmh. Et là, on voit un empressement de la population à rentrer dans les pharmacies pour se faire vacciner. Je trouve que là, quelque part, c'est une très belle victoire, quoi, concrètement.
Depuis le début de cette émission, on a parlé des tests antigéniques, on n'en a pas assez. Là, on voit que le vaccin contre la grippe, on n'en a pas assez, on ne sait pas où ils sont. Et très régulièrement, on a des ruptures sur des produits de médicaments extrêmement régulières et j'ai l'impression de plus en plus courantes. On ne sait plus produire les médicaments correctement en France ?
Alors, la question en fait appelle une réponse multifactorielle. Elle est très complexe.
Ça veut dire que j'ai un peu envie de vous dire oui, mais ce serait un peu pas politiquement correct de vous dire oui.
Non, alors concrètement, il faut savoir une chose, c'est que l'origine des ruptures, déjà on a les ruptures de stock, l'incapacité à produire un vaccin, à exploiter un vaccin ou un médicament, ou à l'exploiter, c'est-à-dire à le commercialiser. Ensuite, les ruptures d'approvisionnement, c'est-à-dire l'incapacité pour un pharmacien de délivrer le médicament demandé par le patient dans les 72 heures. On peut avoir des défauts qualité au niveau des matières premières qui expliquent le fait qu'on soit en rupture de stock, des problématiques logistiques, on peut avoir des problématiques réglementaires également. On a une demande mondiale qui explose aussi en termes de médicaments, ça il ne faut pas l'oublier, mine de rien. Donc ça crée des complexités. Et ensuite, quitte à dire, voilà, les laboratoires reviennent en France pour produire, Pourquoi pas? En tout cas, il appartiendra au LEM, aux entreprises du médicament, de répondre à cette question. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que depuis une dizaine d'années, on a des projets de loi de finances de la Sécurité sociale qui s'enchaînent avec des baisses de prix très importantes sur les produits de santé, sur les médicaments. Et dans ce contexte, il faut essayer de fiscalité également assez forte en France, c'est un secret pour personne. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut essayer de réorganiser le retour des laboratoires vers la France.
Alors, certains se tournent vers des traitements à base d'homéopathie, notamment pendant l'hiver. Et d'ailleurs, ça marche chez certains.
Oui, direction donc les laboratoires Boiron avec Quentin Paillet. C'est la saga du jour dans La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge, la saga.
En France, l'homéopathie, c'est un vrai débat. Il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Mais ce qui est certain, c'est que le leader du marché est français. Ce sont les laboratoires Boiron. À l'origine de ce succès, des jumeaux, deux pharmaciens, Henri et Jean Boiron. Valérie Poinceau-Lorenz, directrice générale des laboratoires Boiron.
Jean et Henri Boiron, en 1932, qui souhaitaient que les médicaments homéopathiques soient fabriqués de la manière la plus fiable et reproductible possible. Parce qu'à l'origine, c'était les médecins qui fabriquaient eux-mêmes les médicaments homéopathiques.
Incontournable de nos armoires à pharmacie, les produits phares de la marque sont connus de tous.
Alors les produits stars, j'allais dire, c'est avant tout ces fameux tubes granules. Vous savez, le fameux tube bleu, le fameux tube d'arnica que toutes les mamans ont quasiment dans leur armoire à pharmacie ou dans leur sac à main. Puis ensuite est arrivé l'oscillococcinum, qui est aussi une star, on va dire, internationale, puisque l'oscillococcinum est distribué dans 50 pays sur la planète.
20 filiales présentes dans 50 pays, notamment en Inde, aux États-Unis ou encore en Russie. Aujourd'hui, alors que Boiron est international, c'est encore une entreprise familiale détenue par les descendants des jumeaux Henri et Jean Boiron.
Donc, ce qui a fait que l'entreprise a su rester familiale, c'est la conviction qu'il fallait continuer à aider cette thérapeutique et à aider de manière humble. C'est-à-dire sans vouloir être forcément orienté sur les résultats de l'entreprise, mais tout simplement orienté sur ce projet d'entreprise. Et c'est pour cela que la famille Boiron est toujours très présente et est toujours très motivée.
L'entreprise réalise environ 550 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais chez Boiron, le discours est plutôt modeste.
Dans le chiffre mondial du médicament, nous représentons que 0,1% du médicament. Donc, vous voyez, c'est finalement un petit laboratoire, mais c'est une grande entreprise en termes de santé publique.
Selon Valérie Poinceau-Lorenz, l'homéopathie doit sa réussite en France à une chose, les pharmacies.
Nous avons vraiment une chance en France, c'est d'avoir des pharmacies et qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais nous qui avons une culture internationale chez Boiron, eh ben, je peux vous dire qu'il fait bon d'être français et d'avoir tous ces pharmaciens qui sont ouverts tous les jours quand il le faut de l'année pour pouvoir répondre aux premiers recours des Français.
Aujourd'hui, ce sont près de 3300 personnes qui travaillent pour Boiron dans le monde, dont 2300 en France. Et les produits Boiron sont made in France et ils sont fabriqués dans trois laboratoires de production à Messimy, dans le Rhône, à Montrichard, dans le Loir-et-Cher, et enfin à Montévrin, en Seine-et-Marne.
Pierre-Xavier Franck, on vient donc de parler d'homéopathie avec le groupe Boiron. L'homéopathie qui a été fortement déremboursée ces dernières années. Aujourd'hui, c'est remboursé à 15%. Et à partir du 1er janvier, ça devrait être totalement déremboursé. Est-ce que ça a un impact sur les ventes dans vos pharmacies ou les adeptes continuent malgré tout d'en acheter ?
Alors, je n'ai pas les chiffres consolidés de vente de l'homéopathie dans les pharmacies Giffard. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le Français qui est adepte de l'homéopathie va continuer à faire confiance à l'homéopathie, remboursée ou non remboursée, concrètement. Voilà, le tube homéopathie, c'est à peu près 2,50 €.
Une dernière question, notamment aussi sur les vitamines. Il y a eu une ruée sur les vitamines pendant le début de la crise, au mois de mars. Vitamine D, zinc, vitamine C. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Oui, les compléments alimentaires, on le vend en poupe, immunostimulants, ça continue. Vitamine C exactement, avec les sels minéraux et oligo-éléments que vous avez cités.
Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1, La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Aujourd'hui, en l'occurrence, Pierre-Xavier Franck, le directeur général de Giffard.
Bonjour Yvette Géraud.
Bonjour, merci beaucoup.
Merci à vous d'être en direct dans notre studio à Europe 1. Vous êtes la cofondatrice de Virtuosi. Virtuosi, c'est pour éveiller les enfants à la musique. Vous avez 33 ans, ça fait tout juste un an que ça existe. Mm-hmm. Vous avez créé ces ateliers. Vous allez tout nous dire dans votre pitch. C'est cool. Parti, cool. Vous avez une minute.
Donc, Virtuosi Kit est une start-up française familiale dont le but est d'inscrire l'éveil musical dans le quotidien des tout petits, au même titre que les dessins, les jeux, les contes, les bricolages. On constate aujourd'hui qu'en France, pour les moins des 3 ans, éveiller un enfant à la musique peut s'avérer difficile. Parfois, il y a très peu d'offres, voire inexistantes dans certaines régions. Donc, et du coup, la musique a un effet positif sur le développement des enfants. Pour y remédier, Virtuosi Kids a créé un parcours d'éveil musical en box mensuel pour éveiller les tout-petits à partir de leurs 18 mois à la musique à la maison. Tous nos coffres sont des kits pédagogiques avec des instruments, des activités pour permettre aux parents ou même des assistants maternels de mettre en place des séances d'éveil musical de façon simple et régulière et accompagner autrement le développement de leur enfant à travers la musique.
Et bah c'est génial, bravo pour ce
merci.
Pitch.
Moins d'une minute.
Moins d'une minute, vous avez tout réussi. Quand vous dites des...
Vous pouvez respirer là.
Quand vous dites des instruments, vous envoyez ça par la poste, des mini-guitares, des mini-xylophones.
Alors, il y a 6 box, c'est un parcours de 6 mois. Donc, c'est surtout des instruments à percussion, des petits instruments à percussion qu'on a dénichés parmi les grands marchés des jouets. On est des musiciens aussi, donc du coup, on a fait tous les choix, un choix de 6 instruments avec des activités pour que les parents aient la possibilité d'éveiller leur enfant à la musique chez eux.
Vous jouez quoi, vous ?
La clarinette.
Clarinette, magnifique. Alors, Yvette, avant d'entrer dans le détail, je vous propose d'écouter notre experte Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce, à la CCI France, et donc vous allez nous dire les forces et les faiblesses de Virtuosi.
Alors effectivement, 3 points positifs déjà sur Virtuosi. Effectivement, les bienfaits de la musique qui sont reconnus depuis longtemps, ça renforce les relations sociales, c'est très important pour les petits, ça diminue les comportements agressifs, ça améliore les performances cognitives, ça sécrète de la dopamine, bref, c'est vraiment idéal pour les tout-petits en développement. Ensuite, les contenus des box sont très complets. Et puis le prix qui est dégressif, voire très dégressif, pour un abonnement de 3 à 6 mois par rapport à l'achat unique. Je mettrais 3 petits points améliorés. D'abord, une petite incohérence à corriger, je vous le dis juste comme ça. Mm-hmm. Sur votre site, sur l'onglet « Offrir », il y a la box Deluxe à 59€ mm-hmm. qui comporte les mêmes choses que sur la box simple à 35€ qui est sur l'onglet « S'abonner ». C'est du détail, mais c'est important.
Cool.
Ensuite, il est possible de tester votre concept avec un guide à télécharger. Mm-hmm. Mettez-le en avant, c'est un super argument parce que ça peut rassurer les parents qui ne sont pas musiciens et qui vont devoir animer cet atelier avec ses enfants. Et puis, troisième chose, valoriser le contenu des autres box pour montrer qu'il y a des choses différentes et inciter à prendre l'abonnement. Le principe, c'est vraiment de simplifier le parcours du client pour qu'il n'ait aucun effort à faire et qu'il trouve tout de suite la réponse à ses questions pour acheter en toute sérénité.
Alors, c'est très intéressant ce que nous dit Nathalie Carré, simplifier le parcours du client. Plus ce sera simple, plus on va venir vers vous et on va acheter, on va s'abonner à vos box. Qu'est-ce que vous en dites ?
Ouais, je pense que tout à fait, ça, c'est quelque chose qui nous parle. Nous avons créé nous-mêmes notre site internet il y a juste 6 mois. Donc vous avez trouvé, par exemple, dans l'angle offrir, c'est surtout la pré-vente de Noël. Donc du coup, on est axé sur les ventes de Noël et on a mis notre offre, de pas d'abonnement, c'est juste l'achat unique.
Oui, l'achat pour que le Père Noël puisse venir.
Mais, c'est tout à fait
prendre le cadeau chez vous.
C'est juste
et là,
simple.
Vous êtes sûr de pouvoir réussir à livrer ? Parce qu'attention, vous allez avoir des milliers de commandes à la sortie de ce studio.
On espère, on croise les doigts. Qu'est-ce que ça soit comme ça.
C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, notre témoin du jour aujourd'hui ?
Je trouve que c'est très positif. Enfin, les enfants sont de vraies éponges. Donc forcément, si on a la capacité de les accompagner à grandir encore mieux et à s'ouvrir justement au monde musical, je trouve que c'est assez fabuleux. Je n'ai pas d'enfant pour l'instant, mais très franchement, le pitch m'a complètement séduit.
Vous êtes convaincu.
Et si j'en avais, j'achèterais dès demain.
C'est pour réveiller les enfants, mais si on a des enfants un peu plus grands, 7, 8, 9 ans, ça marche aussi ou c'est vraiment pour les tout-petits ?
Alors, on a accès sur un éveil musical à partir de 18 mois jusqu'à 4 ans. On peut dire que ça, c'est la tranche d'âge. Ouais.
Merci Yvette Giraud. Ça s'appelle Virtuosi. On vous souhaite Virtuosi Kids et on vous souhaite très très bonne chance.
Et merci. Si vous aussi vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple. Vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être comme ça la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
13h53 sur Europe 1, La France bouge, dernière partie de votre émission en direct, y compris en ce 11 novembre. Et nous sommes comme chaque jour avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la CCI pendant toute la durée de ce deuxième confinement. Nathalie nous apporte chaque jour son expertise et elle répond à toutes les questions que vous vous posez, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur.
Alors aujourd'hui Nathalie, comment convaincre les plus frileux à acheter sur Internet, hein ? Quelle stratégie utiliser quand on vient de monter par exemple son site en ligne, parce qu'il faut répondre à la demande en ce moment. Hein, le click and collect, on a fait une émission lundi, c'est très, très, très demandé. Et on sait que l'achat coup de cœur, pourtant, c'est beaucoup plus instinctif en physique. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, Nathalie Carré ?
Ben oui, c'est vrai, on se balade, on découvre un petit truc dans la vitrine et puis on a envie d'acheter. Là, on est devant son écran, c'est pas la même chose. Donc pour ça, une seule solution, c'est l'émotion. On ressent avant de penser et donc avant de décider d'acheter ou pas. Alors quelques conseils pour travailler ça sur un site internet. D'abord, il faut capter l'attention de l'internaute. Sachez que vous avez entre 6 et 16 secondes pour convaincre l'internaute de rester sur votre site. Donc ça passe d'abord par l'univers graphique de votre site. Avec ça, vous allez jouer sur l'émotion que vous voulez procurer, la joie, la sécurité, etc. Donc il faut jouer sur les couleurs, chaque couleur a sa signification, sur la police de caractère, sur l'image, sur le ton que vous voulez donner. Et cet univers, il doit refléter la raison d'être de votre entreprise, il doit refléter son ADN.
Ce que vous dites, ensuite, Nathalie, c'est que quand j'achète quelque chose sur Internet, ça veut dire que la personne qui a mis en place le site m'a capté entre 6 et 16 secondes.
Ben c'est ça.
C'est
en fait, c'est au bout de 6 secondes, on décide si on reste ou pas sur le site. Donc c'est vrai, c'est très très court, hein, 6 secondes. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment capter l'attention. Il faut vraiment, si on est sur un site de luxe, il faut tout de suite qu'on ressente, voilà, le luxe, la beauté, etc. Mmh. Donc il faut vraiment adapter cet univers graphique et ce ton, à ce qu'on veut véhiculer comme image.
Et je crois que l'idée, et c'est ça qui est peut-être le plus compliqué encore pour un site internet, c'est qu'il faut qu'on se sente un peu unique sur le site, qu'on ait l'impression qu'il est fait pour nous, qu'il réponde à nos envies.
Et oui, donc il y en a qui vont pouvoir se débrouiller un peu tout seul. Et puis il y a tous ceux qui vont vouloir effectivement qu'on s'occupe d'eux, comme on ferait dans une boutique. Donc il faut que vous proposiez des rendez-vous téléphoniques ou en visio pour faire ce que vous faites en boutique, pour conseiller votre client, pour lui montrer des articles qui correspondent à ce qu'il recherche, pour lui parler du produit. Donc évidemment, ça veut dire peut-être des plages horaires plus étendues. Mais sachez que c'est un vrai investissement parce qu'ils sont uniques, donc ils vont rester fidèles à ce que vous leur avez apporté. Donc c'est important, cette relation, vous la créez et vous la maintenez après dans le temps.
Donc ça signifie que la démarche commerciale est aussi en train d'évoluer, elle est aussi en train de changer en ce moment.
Mais oui, en fait, vous savez, on parle beaucoup de l'humain mélangé avec le digital. C'est pas l'un contre l'autre ou l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Et là, c'est une très belle opportunité de tester ça, parce qu'en plus, les gens, là, aujourd'hui, sont enclins à aller acheter en ligne auprès de leur commerce de proximité. Demain, ça changera peut-être. Donc, il faut les capter maintenant pour les fidéliser pour demain.
Après, il y a aussi un barrage, même si celui-ci était en train de se lever, c'est payer en ligne. Il y a quand même encore beaucoup de gens qui ont peur sur des sites qu'ils ne connaissent pas, moyennement sécurisés, de payer en ligne.
Alors oui, mais effectivement, vous pouvez aujourd'hui, en tout cas la loi vous l'autorise, à permettre à vos clients de venir retirer votre commande en magasin et de payer en magasin. Donc ça, si effectivement vous pensez que votre cible a peut-être peur, vous pouvez lui proposer effectivement un paiement en magasin. Vous ne vous prenez pas de risque. À la limite, il ne vient pas, il ne vous donne pas la commande et il ne paye pas, vous ne donnez pas la commande non plus. Donc, en revanche, ça ne marche pas pour la livraison à domicile, bien sûr.
Pierre-Xavier Franck, vous êtes le directeur général de Giffard, hein, plus de 1600 pharmacies. La pharmacie est en train de petit à petit aussi de vendre en ligne. Hein. On le constate. Hein. Comment ça marche en ce moment ? On commande beaucoup ?
Alors, ce qu'on peut observer, c'est que durant la première phase du coronavirus, la première vague, on a effectivement une augmentation très forte de l'utilisation du click and collect en pharmacie. Les pharmacies Giffard, il y en a à peu près 800 qui assurent du click and collect. On a entre 2000 et 5000 ordonnances traitées
donc
par mois.
Donc, ce n'est pas que de la parapharmacie, ce sont aussi des médicaments avec des ordonnances que vous pouvez livrer grâce au site internet.
Tout à fait. Alors, il faut rester quand même
si on le récupère
assez,
à la
assez, assez précautionneux. Exactement. L'achat de médicaments sur Internet est très réglementé. On ne peut pas acheter des médicaments comme ça qui sont soumis à prescription médicale obligatoire.
On le dit depuis le début de l'émission, vous appartenez à un groupe, le groupe Giffard. Ça sert à quoi d'appartenir à un groupe ? Parce que je suis sûr que là, pas mal de nos auditeurs n'ont jamais entendu parler de vous et ne savent jamais qu'ils entrent dans une pharmacie Giffard.
Les groupements de pharmaciens sont assez peu connus en France. Les pharmacies Giffard, elles sont identifiées. 96% des pharmacies sont sous enseigne. Donc, lorsque vous rentrez dans une pharmacie Giffard, vous savez que vous êtes chez Giffard. Mmh. Giffard, c'est du commerce associé. C'est-à-dire que ce sont des patrons d'entreprise qui sont juridiquement indépendants qui décident de s'associer justement, selon le concept, ensemble on va être plus fort. Plus fort pourquoi ? Plus fort pour vendre à bon prix et plus fort pour conseiller et pour communiquer. Voilà, grosso modo, l'idée, c'est ça, c'est l'idée même du commerce associé.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Pierre-Xavier Franck, directeur général de Gifar. Merci à Nathalie Carré. On vous retrouve chaque jour pour le commun de La France Bouge pendant toute la durée du confinement.
Et demain, on parle bricolage.
Avec Bricorama.
Et Bricomarché. Les deux, ils sont ensemble maintenant.
Et voilà, dans un instant, le flash, suivi de Christophe Fondlatte. Europe 1.